Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La religion à Rome.
Mes ancêtres, je vous demande de me quitter. Mère bien-aimée, indique-moi comment les dieux voient mon avenir. Père bien-aimé, veille sur ma femme et mon fils, l'épée à la main. Murmure-leur que je ne vis que pour les retrouver. Mes ancêtres, je vous honore.
Nos ancêtres, les Romains, dit-on parfois. Mais en matière religieuse, nous avons des difficultés à les considérer comme telles. Nos religions d'aujourd'hui sont en effet fondées sur une révélation divine. Des hommes détenteurs d'une autorité se chargent de la commenter devant des fidèles qui sont appelés à la ferveur. Et les pratiques romaines nous laissent donc songeurs. Elles nous paraissent si formelles. En somme, il n'y aurait pas en elles suffisamment de croyance pour qu'elles nous paraissent crédibles. Mais à l'inverse, essayons de nous mettre à la place d'un habitant de Rome. Les propositions du christianisme l'ont d'abord laissé stupéfait. Est-ce que c'est compréhensible, une religion qui place l'individuel devant le rituel et qui ne prêche qu'un seul Dieu? Si Dieu est un, demandait déjà Cicéron, quel bonheur peut-il trouver dans sa solitude? Notre promenade d'aujourd'hui va se situer dans un monde radicalement différent du nôtre, avec comme invité John Shedd, bonjour. Titulaire au Collège de France de la chaire Religion, Institution et Société de la Rome antique, Mazette. Et vous êtes un homme radicalement différent de beaucoup d'entre nous parce que vous êtes luxembourgeois.
Oui, si vous voulez. Enfin, je pense que je suis quand même un peu semblable, mais nous avons un élément original, c'est que nous sommes pratiquement de naissance bilingue. Et nous faisons des études dans les deux langues et aussi avec un œil vers Paris, un autre vers, je ne sais pas quoi, Bonn ou Berlin. Et donc nous combinons deux types d'approches de l'histoire, des lettres.
Etc. L'habitude de l'altérité. Vous êtes un curieux professeur parce que beaucoup de vos cours, c'est le cas aussi de votre dernier livre qui est consacré à Plutarque, sur les pas de Plutarque à Rome, aux éditions Vuibert, se présente sous forme de promenade. Il ne faut pas avoir trop d'impedimenta, hein, de théories liées à notre vie contemporaine. Prendre à boire, marcher et s'asseoir quand il y a l'occasion d'un panorama, avec son rafraîchissement et discuter.
Et discuter. Oui, c'est, je l'ai fait effectivement pendant quelques-uns de mes cours. C'est un choix délibéré qui reflète ce que vous dites, pas d'impedimenta. C'est-à-dire, je crois que l'histoire, bien sûr, se fait avec des théories. Tout le monde a des théories et des modèles. Mais je crois qu'elle ne se fait pas qu'avec cela. Elle se fait surtout avec ce que nous appelons des sources, des textes, des inscriptions, des monuments. Et c'est l'aspect empirique, si vous voulez, de la démarche empirique pour laquelle je milite très fortement. Et il n'y a rien de tel que de mettre les documents à l'épreuve et de se promener de l'un à l'autre et se dire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on a fait avec cela? Est-ce que c'est justifié ou non? Etc.
Alors évidemment, dans notre déambulation dans l'histoire sur France Inter, nos sources ne sont peut-être pas aussi crédibles que les vôtres. Il y a une de vos collaboratrices d'ailleurs qui a travaillé sur l'Antiquité dans l'œil de la caméra. Ici, dans la série américano-britannique Rome, qu'on va utiliser tout au long de cette première partie qui va être consacrée surtout à l'époque de la République, enfin, dans le premier son qu'on va entendre, on est à la fin de la République. Voici un exemple de rituel, parce que il y a d'abord, dites-vous, à Rome, le rituel.
Jupiter, nous t'implorons, guide et protège cet homme, Marc-Antoine. Accorde-lui ta faveur pour sa nouvelle fonction de tribun de la plèbe.
Par la grâce de Rome, pour 12 lunes, te voilà tribun de la plèbe.
Enfin, je n'en pouvais plus. Il faut que je boive.
Oui, les rituels, c'est long, mais il a soif, il boit, mais il a observé le rite avec exactitude. C'est ça l'important.
Oui. Les rites, ce sont des obligations, si vous voulez, comme celles que nous avons en tant que citoyens ou pères de famille, assister au mariage de ses enfants, aux funérailles de ses parents, payer ses impôts, aller voter, et on les fait avec la même ferveur ou absence de ferveur, en critiquant à la limite, mais on les fait, et avec pédanterie, puisque c'est cela. C'est la seule croyance, d'ailleurs, il faut faire ce que les ancêtres ont fait, et à ce moment-là, cette espèce de pacte qu'on a avec les dieux, dont on sait qu'ils sont là, eh bien, sera productif, puisque les dieux attendent cette politesse formelle pour travailler avec les humains à la poursuite d'un objectif terrestre.
Et si on ne le fait pas, ce n'est pas un péché, au sens que le christianisme a donné au mot. Ça rend instable la communauté à laquelle on appartient.
Voilà, ce n'est pas un péché moral, etc. C'est une grossièreté, si vous voulez, et une grande imprudence, parce que l'humain a en face de lui quelqu'un d'extrêmement puissant, ou même plusieurs, et ces dieux peuvent se fâcher. Et à ce moment-là, ils peuvent ne pas aider, ou au pire mettre des bâtons dans les roues et essayer de nuire à celui qui était censé les impliquer dans l'action, tout simplement.
Alors ici, on a entendu quelqu'un qui devient tribun de la plèbe. C'est un magistrat d'un genre un peu particulier, de tribun de la plèbe. Et puis, on a entendu un et deux prêtres. Le monde des prêtres et le monde des magistrats sont étanches, bien que l'origine sociale des uns et des autres soit un peu la même, l'ordre sénatorial.
Comme ce sont des fonctions de très haut niveau, ce sont en général des gens issus de l'ordre sénatorial, l'élite sociale absolue. Mais leurs fonctions sont séparées dans les faits. Quand l'individu Cicéron devient consul, il est consul, et seulement cela. Mais il est aussi augure, membre du collège des augures. Et il peut, à un moment donné, participer à l'assemblée des augures, participer à leurs édits, leurs réponses aux magistrats. Mais quand il est consul, il n'est que cela. Il n'a pas de pouvoir augural à ce moment-là.
Vous avez traduit de l'individu Cicéron, parce que vous pratiquez plus de deux langues. Le traité sur la divination.
Oui.
Qu'est-ce que c'est la divination ?
La divination, c'est la consultation de la vie des dieux. Savoir ce que pensent les dieux des actions, ou savoir si on peut entrevoir quelque chose de l'avenir. Mais les Romains, c'est avant tout approbation ou désapprobation avec ce qui se fait. Et le traité de la divination, que Cicéron, donc, qui pratiquait la divination en tant que magistrat, disons, et qui statuait sur la validité de certains signes en tant qu'augure, eh bien, réfléchit dans ce traité, non pas sur la validité de la divination, je crois que personne à Rome ne mettait ça en question, mais c'est plutôt une discussion en termes philosophiques sur la question: est-ce que les dieux vraiment sont présents dans tous les signes qui se manifestent, ou est-ce que ce n'est pas seulement un jeu symbolique avec les dieux auxquels ils participent eux aussi, mais sans qu'il faille croire que les dieux, par exemple, enlèvent le cœur d'un taureau au moment où le sacrifie. Ça, c'est ridicule, ça.
Alors, c'est bien de parler du sacrifice qui se déroule, à vous lire, toujours en trois temps: la libation, l'encens, le vin pour attirer le dieu, l'immolation et le banquet, qui n'est pas autonomisable par rapport au sacrifice. Ici, nous sommes non plus dans l'espace civique vraiment, mais dans l'espace domestique, toujours dans la série Rome, avec un ancien centurion qui, de retour à la vie civile, monte une entreprise et interroge le temps. Le temps lui sera-t-il favorable ?
Tu choisis mal ton moment pour faire une fête.
Je ne peux pas commencer mon affaire sans offrir un banquet. Ce jour est favorable. Et il n'y a aucun danger.
Nous verrons bien. Je vais invoquer Cérès et Bacchus, tu ne seras pas déçu. Trouve-moi un cochon et je te fais ton banquet, même aux enfers si on me le demande.
Oui, mais à prix d'or.
Musa, la femme du marchand d'huile, a servi des bulots à la place des huîtres le jour de son mariage. Personne ne l'a oubliée, on se moque encore d'elle dans les rues.
Divin Janus, je t'offre ce banquet. Je te supplie humblement d'être charitable envers moi et ma famille. Et je demande pour ma nouvelle entreprise ta bienveillance.
Alors, il y a toute une interrogation dans un de vos cours au Collège de France. Est-ce que toute la viande qui est consommée à Rome, je ne parle pas des bulots et des huîtres, est une viande sacrificielle, j'allais dire halal? Vous répondez de manière très complexe. Mais dites-moi, la religion, ce n'est pas quand même seulement fait de ces actes collectifs qui témoignent d'une communauté familiale ou civile? Il n'y a pas des émotions, c'est ce qu'on appelle la religiosité, monsieur le professeur.
Oui, pour les Romains, en fait, la religion, c'est le sentiment, le savoir qui a une relation avec les dieux sur Terre. Ce qui se passe dans l'au-delà, depuis les Grecs, déjà, on considère que l'esprit humain n'est pas capable de dire quelque chose de sensé sur cela. Ça se passe ici-bas. Et l'essentiel, ce sont effectivement ces gestes, ces rites d'échange, cette étiquette sociale à l'égard des dieux. Les émotions, bien sûr qu'il y a des émotions, mais ce ne sont pas des émotions préalables, comme dans le fameux terme de religiosité que vous citez, qui remonte à la théologie protestante moderne, fin 18e, début 19e siècle, que l'Occident a adopté comme signe de la vraie religion, c'est-à-dire un sentiment intime, sentimental, émotionnel, que la créature ressent quand il voit à l'œuvre son créateur. Chez les Romains, il n'y a pas de créateur. Tout le monde est là, on ne sait pas comment, pourquoi. Ce qui est créé, c'est la cité, c'est la famille, mais l'homme n'est pas créé comme les dieux ne sont pas créés.
Oui, mais enfin, religueré, relié à la transcendance.
Relié au Dieu. Au Dieu.
On voit des orangs.
Oui,
les mains ouvertes, qui
c'est un dialogue
dans
sur
les représentations romaines
sur terre, et ils sont à la limite, la seule émotion qu'ils peuvent avoir, c'est d'avoir bien prié, d'avoir l'espoir que le rite fonctionne ou pas, ou alors d'avoir peur. Et ça, c'est une l'émotion au sens où nous, une sorte d'angoisse religieuse, au sens où nous la ressentons, est un sentiment négatif à Rome, qui est tout de suite critiqué.
Religion et panique peuvent avoir à voir.
Absolument. Quand il y a des grandes paniques, comme par exemple en 212, avant notre ère, au pire moment de la guerre punique, ou en 217, après la défaite catastrophique du lac Trasimène, ou ensuite après la défaite de Cannes et de ce qui a suivi, à Rome, il y a à un moment donné d'hébétude, le Sénat est comme abattu, les bons citoyens ne savent plus où tourner la tête, et le forum est envahi de paysans des faubourgs et de femmes qui font des rites inouïs, pris sous l'angoisse. Et donc, c'est totalement mauvais. Et c'est à ce moment-là que le Sénat se ressaisit et le chef des Romains, qui est Fabius, le fameux cunctator, le prudent, commence par, entre autres, adresser un temple à raison, mens. Raison, faut garder. Et les dieux n'aiment pas du tout quand les hommes s'agitent et ont peur. Parce que...
Il est vrai que la panique, notamment chez les femmes,
oui.
Je vois vous insister, John Chen.
Ah, c'est les Romains qui existent.
Sur les femmes, peut provoquer de curieuses réactions. Par exemple, cette femme délaissée qui maudit l'homme qui l'a abandonnée.
Dieu des Junies, par cette offrande, je vous implore d'invoquer Tyché, Mégara et Némésis, afin qu'elle puisse assister à cette malédiction. Que son phallus se flétrisse, que ses os se fissurent. Dieu des enfers, je vous offre ses membres, ses mains, sa bouche, sa respiration, ses paroles, sa tête, son foie, son cœur. Son estomac. Oh Dieu des enfers, accordez-moi d'être témoin de son tourment, afin que je me réjouisse et que je vous fasse d'autres offrandes.
Oui, il est toujours question de boucherie, au fond. Ça a existé, les malédictions.
Absolument. Et bon, les femmes avaient leur place dans la religion, et pas seulement du côté de la panique. Mais là, vous avez une femme dans ce qui est un des actes commun de la vie quotidienne et de la religion privée, c'est-à-dire ce que nous appelons magie, une malédiction. Mais la même malédiction, vous pouvez la voir au niveau de l'État. Justement, elle voue son ami, ou ce qui aurait dû l'être, au dieu d'en bas, au dieu Mane. Eh bien, il y a un rite militaire romain où le général en chef se jette, se donne lui-même au dieu d'en bas, cadeau magnifique, avec l'armée ennemie. Et c'est les mêmes malédictions. Ce sont donc des rites tout à fait exacts. Mais qui,
des rites, leur exactitude importe beaucoup. Le mythe, dites-vous, ne vient qu'après, en sus du culte. Oui. Mais la mythologie est extrêmement élaborée. Chaque personnage s'emboîte dans un autre. Les personnages secondaires dans les personnages principaux, avec l'origine grecque pour une grande partie d'entre eux. Comme dans la deuxième partie, on va parler de l'extension du domaine romain à la fin de la République et sous l'Empire. Il faut quand même qu'on entende le nom des dieux en grec. Ici, c'est la belle Hélène avec Dame Felicity Lott, les musiciens du Louvre, sous la direction de Minkowski.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec John Shedd, qui, professeur au Collège de France, aime les promenades dans Rome et suit, c'est son dernier livre chez Vuibert, les pas de Plutarque. Vous résolvez les énigmes. C'est un livre, question romaine, hein, parmi les 200 de Plutarque, qui est toujours cité par bout et par morceau. Vous avez trouvé le fil rouge.
Oui. C'est un livre, effectivement, que nous utilisons toujours en pièces détachées, puisque c'est 113 questions sur des sujets de culture générale romaine, les grands thèmes, si vous voulez. Mais il n'y a pas de fil rouge, il n'y a rien. Et j'ai essayé de l'utiliser pour autre chose, et c'est la lecture continue qui m'a fait un jour, comme ça, par une intuition, découvrir qu'en fait, c'était dans le cadre de la philosophie qu'on appelait académique, qui descendait d'Aristote, une promenade dans un espace fermé, et que c'était des lieux de mémoire qu'on passait, un temple, un bâtiment, un lieu dit, qui déclenchait ensuite des questions sur ces différents thèmes culturels.
C'est-à-dire que chaque fois qu'était entrevu un lieu, notamment religieux, on parle aujourd'hui de la religion, oui, à Rome, une question venait sur le sens ou l'énigme des rites, puisque la religion à Rome est faite d'abord de rites. Plutarque, le livre est tardif, là, c'est un peu après 100 de notre ère. Justement, c'est l'époque dont on va parler maintenant, celle de l'extension du domaine romain. On ne sait pas très bien à qui ce livre de Plutarque est dédié. Une des hypothèses possibles, c'est qu'il soit dédié à l'empereur. Alors justement, l'empereur. L'empereur, il organise un programme religieux très particulier, ou qui restaure ce qui aurait eu lieu auparavant.
Oui, il est beaucoup dans... quand nous entendons parler de restauration, c'est qu'en général, il y a eu une crise, comme la guerre civile, dont nous avons entendu Rome qui parle de cette période-là. Et puis, ça recommence en 69-70 après notre ère, quand, enfin de notre ère, quand Vespasien restaure de nouveau l'État, et ça reviendra régulièrement comme thème. Et dans ce cadre, de la même manière qu'on restaure l'État, la caisse publique, les institutions, on restaure la religion. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça va plus vite, c'est plus simple, puisqu'il suffit d'un peu d'argent et d'une décision que le reste. Et en même temps, on peut prouver ainsi sa bonne foi. Et notamment Auguste, par exemple, le futur Auguste, parce que ça s'est essentiellement passé avant, alors qu'il était encore César Octavien. Il prouvait par là, en restaurant les vieilles traditions religieuses de Rome, qu'il entendait garder Rome comme capitale de l'Empire. Et c'était dirigé contre Marc-Antoine, qui, pour sa part, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il voulait déplacer le centre de l'Empire à Alexandrie ou à Antioche.
Donc Rome est bien là où Romulus, parce qu'il y a tout un programme romuliste derrière tout cela, l'a fondé. Les devoirs religieux ne doivent pas être négligés. Mais Auguste lance aussi un programme à terme de divinisation de l'empereur, sauf qu'il en limite l'ardeur, parce que ses courtisans, ses supporters iraient sans doute trop loin. Hein.
C'était un thème qui était dans l'air. Vous savez que César a été sans doute, même avant d'être assassiné, divinisé, et que ça peut être une des raisons du passage à l'acte des conspirateurs. Et Auguste savait très bien ce qu'il risquait. Donc il a freiné les ardeurs et il a quand même mis en perspective déjà une sorte de culte de son génie. C'est le Sénat qui lui a offert, mais on peut imaginer qu'il y avait quelques personnes qui l'ont suggéré au Sénat. Et après sa mort, il devient un divinisé.
Oui, mais pas de son vivant. Ses successeurs n'ont pas toujours eu sa prudence. Un exemple, vous avez bien voulu dire du bien de la série Rome. Je ne sais pas ce que vous allez dire de Claude, empereur, Eberweiss. Nous sommes là sous Caligula, c'est-à-dire autour de l'an 40. C'est un règne bref, mais assez épique, parce que ici, Caligula et sa sœur veulent déloger Jupiter de son temple.
Regarde, Jupiter, a-t-il l'air d'un dieu?
Oh, d'un dieu inférieur.
Tu as entendu? Tu n'es pas assez important pour être digne de ce temple. Pardon? Prends garde à ce que tu pourrais me dire, sinon je te ferai fouetter le visage par un esclave. Eh bien, parle plus fort, je ne comprends rien. Hein? Bien. Dorénavant, si tu t'adresses à moi, tu m'appelleras Zeus, car sa puissance est la seule qui soit comparable à la mienne. Tu as été créé par les anciens Romains à son image, mais tu n'es rien. Rien du tout, tu comprends. Et voici Héra. C'est à son image que les Romains ensuite t'ont créé.
Nous vous ferons porter dans l'annexe. Vous avez trôné ici depuis bien trop longtemps. C'est notre temple.
Faites-nous remonter la pente que ce film descend. En fait, Caligula, ça n'a pas été le Duce, et l'aurait-il été que ça aurait été exceptionnel.
Oui. Non, il faut dire que toutes ces figures de tyrans et un certain nombre d'empereurs se sont illustrés. Certainement, cela se passait mal sur le plan intérieur à ce moment-là, mais ce sont des figures presque romanesques du lieu commun du tyran et écrit après les événements. C'est plus prudent. Mais souvent, on a essayé, quand on n'avait pas d'autres sources, de faire de l'histoire avec cela. Et notamment dans les années 30, pour des raisons évidentes, on a fait le rapprochement avec le Duce, et d'autant plus que le Duce lui-même utilisait lourdement le symbolisme impérial. Alors certains ont présenté l'empereur romain comme une espèce de dictateur fasciste, alors que d'autres se ridiculisaient les empereurs, par exemple Octavien Auguste, en disant qu'il était un Duce avant l'heure, en quelque sorte. Mais tout cela, c'est de l'idéologie. Il faut bien savoir que les choses sont un peu plus complexes.
Programme impérial. Ça, c'est une caractéristique de l'époque en matière religieuse. élargissement du domaine romain, on l'avait déjà constaté dans les deux derniers siècles de la République, et l'interprétation romaine, comme dit Tacite, c'est pas de soumettre et de convertir, c'est d'intégrer. D'intégrer les autres religions.
Absolument. Les Romains, dans la mesure où il n'y a pas une révélation et une sorte de missionnarisme, les Romains ne veulent convertir personne. En revanche, ils trouvent qu'il est normal et même rassurant que chacun, chaque communauté étrangère ait sa religion. Et quand ils viennent à Rome, c'est tout à fait normal qu'ils pratiquent cette religion. Et on ne leur impose pas de se convertir. Sauf s'ils sont naturalisés, à ce moment-là, ils deviennent d'office aussi membres de la communauté religieuse romaine.
Exemplaire, le culte d'Isis. Nous sommes, allez, c'est le dernier extrait de film, John Shedd, dans les derniers jours de Pompéi. Donc, on doit être en 79, après une première éruption du Vésuve. Vous allez voir que chez Sergio Leone, comme Isis est d'origine égyptienne, son culte s'accompagne toujours d'une musique, c'est normal, arabisante.
C'est aujourd'hui la célébration des Ides de mai. Une manifestation somptueuse doit montrer à l'empereur ainsi qu'à Rome que sous le ciel de Pompéi, rien n'est changé.
Julia, ma divine, fais en sorte que toute la ville participe à la fête d'Isis.
Qu'as-tu ? Il ne faut pas être aussi triste à une telle fête. Ce n'est pas ainsi qu'on honore la déesse Isis. Il faut montrer de l'enthousiasme.
Au secours ! Laisse-moi !
Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon d'honorer les dieux.
Non, lâche-moi ! Non ! Laisse-moi tranquille !
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je sens comme une vision négative là, de la communauté isiaque. D'ailleurs, Auguste avait tenté de prendre des décrets contre elle, mais il n'a pas été le plus fort.
Non. Ce sont des relations mouvementées. Isis est depuis longtemps à Rome, mais sur un plan privé. Des communautés de marchands, notamment, qui trafiquaient à Délos, dans le commerce du blé, par exemple, avaient cette déesse comme patronne. Et il y a eu régulièrement, derrière les troubles politiques, cette divinité qui était constitutive de certains groupes, appelons-les politiques. Et puis, un moment d'apaisement avec César, on a essayé même d'introduire l'Égyptienne comme déesse publique. Puis Antoine et Octavien sont fâchés, et donc le projet s'arrête là, et ça continue ensuite. Et quand Auguste, effectivement, est seul au pouvoir, il interdit, il bannit les temples d'Isis de Rome. Mais ça n'empêche rien. Nous savons, par exemple, que... En 69, lors du siège de Rome par les Vitelliens et les combats de rue entre Vitelliens et Flaviens, Domitien lui-même, qui était un jeune homme à l'époque, a été sauvé au Capitole par les prêtres d'Isis.
Voilà, donc ils étaient de nouveau là. Des communautés isiaques, et on pourrait parler des communautés de Mitra, et puis on pourrait parler des Juifs, et on pourrait parler des chrétiens. Juste en 15 secondes, il y a seulement 1700 ans de christianisme.
Oui, John Shedd. Dis cela parce que j'entends par christianisme une religion qui concerne tous les individus de l'Empire, ou la plupart, tous ceux qui se sentent intéressés. Et avant Constantin et surtout Théodose, il n'en est pas question. Ce n'était pas encore gagné. Tout aurait pu basculer.
Alors le luxembourgeois élevé dans la contre-réforme que vous êtes nous dirait presque que ces 1700 ans de christianisme font écran pour comprendre la religion à Rome, thème de beaucoup de vos travaux, dont on retrouve la liste, John Shedd, sur notre site. Demain, nous parlons de l'histoire du jeu d'échecs. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparé avec Philippe Duclos et Yann Bouillot.